Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, le 3 avril 1924, à Quincy, dans la Côte d'Or, Madame Royer rendait son âme à Dieu à l'âge de 82 ans. Mère de 4 enfants, épouse fidèle et dévouée envers son mari, elle avait été choisie par le ciel pour rétablir dans toute son intégrité la dévotion au Sacré-Cœur. Profitons de ce mois de juin consacré au cœur de Jésus pour écouter les enseignements que notre Seigneur nous livre au travers de cette mère de famille et de cette épouse exemplaire. Rappelons d'abord qu'on distingue d'une part la révélation dite publique faite par notre Seigneur à ses apôtres et que l'Église a mission de proposer à notre foi. Nous devons y croire pour être sauvés. Et d'autre part, on a les révélations dites privées qui sont faites par Dieu, par notre Seigneur, par Notre-Dame ou même par des saints. Révélations faites à des personnes particulières pour leur propre salut ou pour l'utilité de l'Église. Ces révélations privées n'ajoutent rien au dépôt de la foi. Et il faut bien sûr être très prudent par rapport à toutes ces révélations privées et ne s'en tenir qu'à celles qui ont été approuvées officiellement par l'autorité ecclésiastique. Les révélations de Madame Royer ont été approuvées et recommandées chaudement par les papes Léon XIII et Saint Pie X. Nous sommes donc ici en terrain sûr. Mardi prochain, il y aura 175 ans que naissait la petite Edith Chaland-Belval au village d'Aisy, dans le diocèse de Sens, le 14 juin 1841. Ses parents étaient d'une piété et d'une mortification hors du commun. À sa naissance, son père suspendit dans le berceau de sa fille les images de Jésus et de Marie, qui furent les premiers noms qu'Edith apprendra à prononcer. Un jour qu'elle était dans sa 6e année, elle se sentit attirée à entrer dans une chapelle dédiée au Sacré-Cœur. Et sans préparation, obéissant à une inspiration divine, elle s'y consacra à notre Seigneur par le vœu de chasteté. Ne nous étonnons pas de ce jeune âge. Sainte Rose de Lima avait voué sa virginité à l'âge de 5 ans. Sainte Marguerite Marie, entre 4 et 7 ans. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus eut l'intuition de sa vie religieuse à 2 ans. La petite Edith fit sa première communion à l'âge de 12 ans. Cette fois, c'était tard, mais c'était commun à l'époque. Il n'y avait pas encore eu le décret de Saint Pie X sur la communion précoce des petits-enfants. Ses lectures spirituelles se faisaient dans la vie des saints. En même temps, son père tenait à ce qu'elle ait une solide culture générale. Elle lira couramment le latin et le grec. En 1860, Edith avait 19 ans. Un certain Charles Royer, qui appartenait à une vieille famille de Bourgogne, demanda Edith en mariage. Elle refusa catégoriquement à cause de son vœu de chasteté. Mais son père ne voulut rien entendre et le cas fut soumis au curé doyen, dont Madame Royer dira plus tard qu'il n'entendait rien à la vocation religieuse. Plus tard, la commission diocésaine d'enquête jugera ce prêtre expéditif dans ses décisions et autoritaire dans sa manière de les imposer. De fait, il jugea un peu rapidement qu'il fallait relever Edith de son vœu, ce qu'il fera faire par l'archevêché de Sens. La Providence l'avait permis. Sainte Françoise Romaine s'est trouvée dans la même situation. Le mariage eut donc lieu le 23 juillet 1860 et celle qui était maintenant Madame Royer, s'abandonnant à la volonté de Dieu, se donna pleinement à sa vocation d'épouse et de mère. Elle eut 4 filles. Son confesseur écrira: il est impossible de rencontrer une épouse plus tendre, une mère plus aimante, une maîtresse de maison plus appliquée à tous ses devoirs. Il faut étudier de près cette vie exemplaire, si extraordinaire, pour comprendre la sainteté du mariage, la beauté du lien conjugal. Elle considérait son mari comme le lieutenant et le mandataire du Christ. De ses premières années de mariage, elle dira « Je fus la plus heureuse des épouses et la plus heureuse des mères ». Tout se passait sans difficulté, lorsqu'après 3 ans de cet heureux mariage, un jeune prêtre de 31 ans, l'abbé Lalourcet, fut nommé curé de Saint-Rémy, le village des Royers. Bien que d'esprit très surnaturel, le jeune abbé manquait de prudence dans ses jugements. Madame Royer n'avait décidément pas de chance. Mais le ciel savait ce qu'il permettait. L'abbé Lalourcet dit à Madame Royer qu'elle avait fait une faute grave en acceptant d'être relevée de son vœu et de se marier. Vous pouvez penser combien ce verdict provoqua de crise dans l'âme de Madame Royer qui se reprochait d'avoir été infidèle à notre Seigneur. Et plus possible de retourner en arrière. Elle n'en fit rien paraître, bien sûr, à son époux, mais sa vie quotidienne au foyer lui parut subitement extrêmement pesante. Elle tournait ses regards vers le cloître et se désolait de s'en être fermé l'accès. Ses angoisses se calmèrent cependant lorsque, passant à Paris, elle se confessa à un saint prêtre qui eut un autre verdict et qui la rassura pleinement et qui lui donna des conseils pour l'oraison qui l'éclaireront toute sa vie. Alors Madame Royer eut comme une voix intérieure de notre Seigneur lui disant qu'elle redeviendrait son épouse sans quitter le mariage, mais en se crucifiant. C'est sa vocation pénitente qui lui était révélée. Notre Seigneur entreprit de la conduire lui-même dans cette voie, en lui demandant de rudes pénitences qu'elle dissimulait habilement pour ne pas être à charge aux siens. À chaque fois que l'abbé Lalourcet, les trouvant déraisonnables, les lui interdisait, Madame Royer tombait gravement malade. Et elle ne retrouvait la santé que lorsque la permission lui était donnée de reprendre ses pénitences. On peut noter ici l'obéissance de Madame Royer, qui est le signe infaillible des vrais mystiques. L'obéissance est ce qui me donne le plus de joie et de paix, dira-t-elle. C'est alors que notre Seigneur commença à révéler sa mission à sa servante. C'était le 21 juillet 1870, 2 jours après l'annonce de la guerre avec l'Allemagne protestante. Notre Seigneur apparut à Madame Royer dans l'église paroissiale de Saint-Rémy où elle s'était rendue pour entendre la Sainte Messe. Il avait l'air triste et sévère. Il avait une faux à la main et il fauchait les blés dont les épis tombaient en gerbe. Une voix intérieure fit comprendre à Madame Royer que la guerre serait malheureuse. Notre Seigneur lui montra alors que pour obtenir sa miséricorde, il faudrait lui offrir des prières et des expiations dans une sorte d'association de prières et de pénitences. Madame Royer fut alors poussée intérieurement à adresser la prière suivante au Sacré-Cœur. Cœur de Jésus, très miséricordieux et compatissant, très clément, qui avait choisi la France pour manifester votre amour, ayez pitié de nous. C'était une référence, bien sûr, aux apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV. Vous le savez, le Sacré-Cœur de Jésus est le symbole de l'amour de notre Seigneur pour son Père et pour nous. Mais en échange de son plan d'amour, notre Seigneur demande à sa créature une réciprocité d'amour. À Paray-le-Monial, notre Seigneur s'était plaint à Sainte Marguerite Marie qu'en retour de son amour, il ne recevait, dit-il, de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour lui, en particulier dans son sacrement d'amour, le sacrement d'Eucharistie. Je passe ici sur les demandes du Sacré-Cœur aux autorités de l'Église et au roi de France, non pas parce qu'elles seraient de moindre importance, c'est au contraire le refus de nos rois de les accomplir qui ont précipité le pays de malheur en malheur jusqu'à aujourd'hui. Mais ne parlons ici que des demandes qui concernent chacun de nous. Aux âmes particulières désirant répondre aux invitations de son cœur sacré, notre Seigneur avait indiqué la communion réparatrice des 9 premiers vendredis du mois et l'heure sainte du premier jeudi de chaque mois. Mais ce n'est pas tout, loin de là. C'est un changement de toute notre vie que demande notre Seigneur pour mettre fin au malheur de notre époque. C'est en faisant pénitence qu'on sauvera la société, dit-il à Madame Royer. Notre Seigneur lui montra alors un coffre fermé qui était l'image de son cœur. Ce coffre contenait des grâces très abondantes pour l'Église, pour la France et pour les âmes particulières. Pour ouvrir ce coffre, notre Seigneur lui donna 2 clés qui signifiaient la prière et la pénitence. C'était l'indication de l'association que Jésus voulait lui voir fonder. Madame Royer eut cependant un scrupule de conscience. Elle se trouvait tout à fait indigne d'ajouter quelque chose au message de Parel Monial. C'est alors que Sainte Marguerite Marie elle-même lui apparut. Elle lui confirma les prédilections du Sacré-Cœur à son égard et la rassura. L'association nouvelle n'avait pas pour but de montrer la dévotion au Sacré-Cœur sous un jour nouveau, mais d'en empêcher l'affadissement. Le monde, en effet, s'éloignait de plus en plus de la mortification. Le sensualisme, le luxe, la mollesse avaient gagné les âmes, même les meilleures. « Si je pouvais revivre, lui dit Sainte Marguerite Marie, je serais la première à proclamer bien haut que le Sacré-Cœur ne peut sauver les hommes sans la pénitence. L'amour envers le cœur de Jésus ne doit pas se témoigner uniquement par la confiance en sa miséricorde, par les prières, les communions, les pèlerinages. Je crierai qu'à toutes ces manifestations, il faut joindre la pratique de la pénitence. » Non seulement des dispositions intérieures à la pénitence, mais encore des actes extérieurs et positifs de mortification proportionnés aux grâces de chacune des âmes. Pour qu'on ne s'effraie pas, Madame Royer précisera bien les choses. Ces pénitences demandées par le ciel sont accessibles à tout le monde. Elles sont d'ailleurs semblables à celles que Notre-Dame de Fatima demandera le siècle suivant. Notre Seigneur, dit Madame Royer, demande aux gens du monde, d'abord, de prendre en esprit de pénitence leurs travaux quotidiens, leurs souffrances, de les sanctifier par la patience et par l'esprit de foi, mais aussi qu'ils s'imposent positivement quelques petites privations, quelques renoncements à ce luxe, à ces vanités auxquelles on accorde tant de nos jours, et à défaut de jeûne, avoir au moins le courage de retrancher le plus possible les superfluités ou recherches de ces aises, ne serait-ce que de se priver d'une friandise, d'une parole ou d'un regard de curiosité. Aujourd'hui, on pourrait rajouter « être vigilant sur Internet ». Et l'immodestie vestimentaire qui atteint même la tradition est un exemple très certain de ces vanités dont parle Madame Royer, sans compter que la cloison qui sépare cette immodestie de l'impureté est très mince. En tout cas, les pénitences dont parle Madame Royer sont à la portée de tous. Et c'est sans doute pour cela que le Sacré-Cœur s'est servi d'une mère de famille pour nous adresser ce message. C'est notre Seigneur qui indiqua à Madame Royer le nom de la nouvelle association. association de prière et de pénitence en union avec le Sacré-Cœur pour le triomphe de l'Église et pour le salut des nations. L'association fut érigée le 23 février 1879 par l'autorité ecclésiastique. Le pape Léon XIII l'éleva en 1894 à la dignité d'archiconfrérie universelle, c'est-à-dire qu'il l'étendait au monde entier et il la dota de riches indulgences. Le pape Saint-Pie X s'inscrivit lui-même dans la branche sacerdotale de l'association, invitant les prêtres du monde à faire de même pour sanctifier leur ministère. Et si aujourd'hui nous sommes arrivés en ces temps où, selon les paroles mêmes de sœur Lucie de Fatima au père Fuentes, il n'y a plus à attendre un appel à la pénitence venant de Rome, venant des évêques diocésains et des congrégations religieuses, eh bien les demandes du Sacré-Cœur sont toujours là et nous pouvons y répondre à notre niveau. Madame Royer a eu des lumières sur l'avenir, annonçant la guerre de 14, la fausse paix qui suivrait, dit-elle, puis la nouvelle guerre, le monde continuant à crouler dans l'impiété, l'impureté et le complet oubli de Dieu. Les Français, dit-elle, iront jusqu'aux confins du désespoir. C'est seulement quand tous les recours aux moyens humains seront épuisés et que tout semblera perdu que le Sacré-Cœur interviendra. Alors, dit-elle, la France ne pourra nier qu'elle devra son salut au Sacré-Cœur seul. À cet effet, nous pourrions prendre l'habitude de réciter cette invocation que Madame Royer répétait souvent, qui deviendra celle de la basilique de Montmartre et qui se répandra de là dans le monde entier. Cœur de Jésus, ayez pitié de nous, pardonnez-nous, sauvez-nous. Terminons sur une belle image. Cette statue du Sacré-Cœur représentant notre Seigneur tel qu'il était apparu plusieurs fois à Madame Royer. Jésus, nous montrant son cœur embrasé, étendant les bras, ayant à ses pieds la couronne d'épines, les clous et les fouets de sa passion et le calice de l'agonie. Le pape Léon XIII mit cette statue dans son bureau et elle trône dans la basilique de Montmartre. C'est l'appel du Sacré-Cœur. Et bien que nos prières du mois de juin nous obtiennent la grâce d'y répondre, nous pourrons demander cette grâce au cours de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.